Chapitre 3. Charleston. Samedi 13 décembre 1980. Je fus réveillé par le soleil éclatant qui perçait les frondaisons. C'était un de ces matins d'hiver limpides, grâce auxquels il est bien moins déprimant de vivre dans le sud que de seulement survivre à un hiver yankee. J'apercevais les palmiers verts au-dessus des toits de tuiles rouges. Lorsque M. Thorne m'apporta mon petit déjeuner, je lui demandai d'ouvrir un peu la fenêtre. Je sirotai mon café en écoutant les enfants jouer dans la cour. Jadis, M. Thorne m'aurait apporté le journal du matin sur le plateau. Mais j'avais appris depuis longtemps que la lecture des folies et des scandales de ce monde ne sert qu'à profaner le lever du jour. À vrai dire, les activités de l'espèce humaine m'intéressaient de moins en moins. Cela faisait 12 ans que je me privais de quotidien, de téléphone et de télévision. Et je n'en souffrais nullement, sauf si l'on considère une autosatisfaction grandissante comme une maladie. Je souris en me rappelant à quel point Willy avait été déçu de ne pas pouvoir nous montrer ses cassettes vidéo. Quel enfant il faisait. « Nous sommes samedi, n'est-ce pas, Monsieur Thorne ?» Il hocha la tête et je lui fis signe de remporter le plateau. « Nous allons sortir aujourd'hui. Peut-être irons-nous jusqu'au fort. Ensuite, nous dînerons chez Henry et nous rentrerons. J'ai des dispositions à prendre. » Monsieur Thorne hésita et faillit trébucher en sortant de la pièce. J'en oubliais un instant de nouer la ceinture de ma robe de chambre. Cela ne ressemblait guère à Monsieur Thorne d'avoir des mouvements aussi disgracieux. Je me rendis compte que lui aussi vieillissait. Il redressa le plateau, hocha la tête et se dirigea vers la cuisine. Je n'allais pas laisser des idées de vieillesse gâcher une si belle matinée. Je me sentais animé d'une énergie et d'une résolution nouvelles. La réunion de la veille ne s'était pas très bien passée, mais cela aurait pu être pire. J'avais été franche avec Nina et Willy, et leur avais avoué mon intention de renoncer au jeu. Durant les semaines et les mois à venir, ils méditeraient sur les conséquences de cette décision. Pour Nina, cela ne faisait aucun doute. Mais lorsqu'ils décideraient de réagir ensemble, ou séparément, je serais partie depuis longtemps. Plusieurs identités de rechange, anciennes et nouvelles, m'attendaient déjà en Floride, dans le Michigan, à Londres, dans le sud de la France et même à New Delhi. Pas question d'aller dans le Michigan pour le moment. Je n'étais plus habituée à un climat aussi rude. New Delhi n'était plus pour les étrangers le havre d'accueil que j'avais connu lorsque j'y avais résidé peu de temps avant la guerre. Nina avait raison sur un point. Un retour en Europe me ferait sûrement du bien. J'avais déjà la nostalgie de la riche lumière et du savoir-vivre, empreint de cordialité des villageois que je côtoyais dans ma résidence d'été des environs de Toulon. L'air du dehors était revigorant. Je ne portais qu'une robe en tissu imprimé toute simple et mon manteau de printemps. Une pointe d'arthrite dans ma jambe droite m'avait fait souffrir alors que je descendais l'escalier, aussi pris-je la précaution de prendre la vieille canne de mon père. Un jeune serviteur noir l'avait taillée durant l'été où nous avions quitté Greenville pour déménager à Charleston. Je souris lorsque nous émergeâmes dans l'air tiède de la cour. Mrs. Hodges se détacha du pas de sa porte et s'avança dans la lumière. C'étaient ses petites filles et leurs amis qui jouaient autour de la fontaine asséchée. Depuis 2 siècles, cette cour était commune aux 3 bâtiments de briques. Seule ma maison n'avait pas été divisée en appartements coûteux. « Bonjour, Miss Fuller. »«
Bonjour, Mrs. Hodges.
Quelle belle journée. »«
En effet. Vous allez faire des achats ?»«
Non. Simplement me promener, Mrs. Hodges. Je suis surprise de ne pas voir Monsieur Hodges. On dirait qu'il passe tous ses samedis à travailler dans la cour. »
Mrs. Hodges fronça les sourcils lorsqu'une petite fille passa près de nous en courant. Elle était poursuivie par une camarade de jeu hurlante et dépenaillée.
« Oh, George est déjà parti à la marina. »
« En plein jour ?»
Je m'étais souvent amusée à regarder M. Hodges partir le soir, son uniforme de garde impeccablement repassé, ses cheveux gris dépassant de sa casquette, sa sacoche repas tenue fermement sous son bras.
Monsieur Hodges était aussi tanné et cagneux qu'un vieux cow-boy. C'était un de ces hommes toujours sur le point de partir à la retraite, mais qui pense probablement que l'inactivité est une forme de condamnation à mort.
Oui, un des hommes de couleur de service de jour là-bas à l'entrepôt a démissionné, et on a demandé à George de le remplacer. Je lui ai dit qu'il était trop vieux pour travailler le week-end en plus de ses 4 nuits par semaine. Mais vous connaissez George.
Eh bien, donnez-lui le bonjour de ma part, dis-je. Les fillettes qui couraient autour de la fontaine m'énervaient. Mrs. Hodges me suivit jusqu'à la grille en fer forgé.
Est-ce que vous allez partir en vacances, Miss Fuller?
Probablement, Mrs. Hodges, très probablement. Puis, Monsieur Thorne et moi prîmes la direction de la batterie.
Quelques voitures roulaient à faible allure dans les rues étroites, des touristes contemplant les maisons de notre vieux quartier, mais la journée était calme. Dès que nous arrivâmes dans Broad Street, j'aperçus les mâts des yachts et des voiliers avant même de voir la mer.
« Veuillez acheter des billets pour nous deux, Monsieur Thorne, » dis-je. « J'aimerais bien aller voir le fort. »
Comme la plupart des gens demeurant à proximité d'une attraction touristique, je n'avais pas prêté attention à celle-ci pendant plusieurs années. Visiter le fort maintenant avait une valeur purement sentimentale. J'agissais ainsi parce que j'étais de plus en plus persuadé que j'allais quitter cette région pour toujours. Décider de partir est une chose. C'en est une autre que d'affronter la réalité impérative du départ. Les touristes étaient peu nombreux. Le ferry s'éloigna de la marina pour s'engager dans les eaux placides du port. La chaleur du soleil et le bourdonnement régulier du diesel me firent somnoler pendant quelques minutes. Je me réveillai alors que nous abordions la sombre masse de l'île où se dressait le fort. Je restai quelque temps au sein du groupe, appréciant le silence sépulcral des niveaux inférieurs et la voix chantante de la jeune femme qui nous servait de guide. Mais lorsque nous retournâmes vers le musée aux dioramas poussiéreux et aux bacs de diapositives ridicules, je repris l'escalier pour remonter sur le chemin de ronde. Je fis signe à Monsieur Thorne de rester en haut des marches et m'avançai sur les remparts. Il ne s'y trouvait que 2 autres personnes. Un jeune couple, elle avec un bébé dans un sac à dos qui ne paraissait pas très confortable. Lui avec un appareil photographique bon marché. Ce fut un moment fort agréable. Une tempête montait à l'ouest, brossant un décor de velours noir aux flèches des églises, autour de briques et aux branches nues toujours inondées de soleil. Même à 3 kilomètres de distance, j'apercevais les passants en train de flâner le long de l'allée de la batterie. Le vent qui précédait les nuages sombres jetait des paquets d'écume sur le ferry et sur les planches du quai. L'air avait des relents de fleuve, d'hiver et de pluie crépusculaire. Il n'était guère difficile d'imaginer ce jour lointain. Les obus étaient tombés en si grand nombre sur le fort que ses murailles extérieures n'étaient plus que des piles de gravats. Derrière la batterie, les gens juchés sur les toits avaient poussé des cris d'enthousiasme. Les couleurs éclatantes des robes et des ombrelles en soie avaient dû irriter au plus haut point les canonniers yankees. Finalement, l'un d'eux avait tiré une salve au-dessus des toits envahis de monde. La confusion qui s'était ensuivie avait dû être amusante à observer d'ici. Un mouvement sur l'eau attira mon attention. Quelque chose de sombre glissait sur les eaux grises. Quelque chose d'aussi sombre et silencieux qu'un requin. Je m'arrachai à ces visions du passé et reconnus un sous-marin Polaris, ancien, mais de toute évidence encore opérationnel, qui traversait les eaux sombres sans un bruit. Les vagues se brisaient sur sa coque aussi lisse que les flancs d'un marsouin, formant sur son passage un sillage de blancheur. Il y avait plusieurs hommes sur la tourelle. Ils portaient d'épais manteaux, et leurs casquettes étaient enfoncées sur leur tête. Une énorme paire de jumelles pendait au cou de celui qui devait être le capitaine. Il désigna quelque chose de l'autre côté de Sullivan's Island. Je le regardais fixement. Mon champ de vision se rétrécit alors que j'entrais en contact avec lui. Des bruits et des sensations également lointains parvinrent jusqu'à moi. Tension. Plaisir de sentir les embruns et la brise venant du nord-nord-ouest. Anxiété à l'idée des ordres scellés dans la cabine.
conscience des hauts fonds à présent visibles à bâbord. Quelqu'un s'approcha de moi et je sursautai. Les phosphènes disparurent de la lisière de mon champ de vision au moment où je me retournais. C'était Monsieur Thorne, à mes côtés. Sans que je lui en aie donné l'ordre. J'avais ouvert la bouche pour lui ordonner de regagner son poste lorsque je compris pourquoi il s'était approché. Le jeune homme qui venait de prendre des photos de sa pâle épouse se dirigeait à présent vers moi. Monsieur Thorne fit un pas vers lui pour l'intercepter. « Excusez-moi, madame, est-ce que vous voulez bien nous prendre en photo tous les deux, vous ou votre mari ?» J'acquiesçai, et Monsieur Thorne prit l'appareil que lui tendait le jeune homme. L'objet semblait minuscule entre ses doigts longilignes. Deux déclics plus tard, le jeune couple était satisfait. Leur présence en ce lieu avait été enregistrée pour la postérité. Le jeune homme m'adressa un sourire idiot et hocha vigoureusement la tête. Le bébé se mit à pleurer comme un vent froid se levait. Je me retournai vers le sous-marin, mais il s'était déjà éloigné, sa tourelle grise formant une mince bande qui reliait le ciel à la mer. Nous étions presque revenus en ville, et le ferry se dirigeait vers le quai lorsqu'une inconnue m'apprit la mort de Willy. « C'est horrible, n'est-ce pas ?» Cette vieille femme bavarde m'avait suivi sur le pont. Le vent était devenu positivement glacé, et j'avais changé par deux fois de place afin d'échapper à ses remarques stupides. Mais cette sotte avait de toute évidence décidé que je subirais sa conversation jusqu'à la fin de la traversée. Ni ma réticence, ni la présence furibarde de M. Thorne ne l'avait découragée. « Ça a dû être épouvantable, » continua-t-elle. « En pleine nuit, vous vous rendez compte ?»« Quoi donc ?» Un sinistre pressentiment m'avait poussé à lui poser cette question. « Eh bien, l'avion qui s'est écrasé, vous n'êtes pas au courant ? Ça a dû être horrible de tomber comme ça en plein milieu des marais. Ce matin, j'ai dit à ma fille, « Quel avion ? Quand est-ce arrivé ?» La vieille femme eut un mouvement de recul devant la sécheresse de ma voix, mais le sourire niais restait plaqué sur son visage. « Eh bien, la nuit dernière, ce matin, j'ai dit à ma fille, « Où ça ? Quel avion ?» Monsieur Thorne se rapprocha de moi en entendant le ton de ma voix. « L'avion de cette nuit, chevrota-t-elle, celui de Charleston, on en parle dans le journal qui se trouve au salon, n'est-ce pas horrible ? 85 victimes. « J'ai dit à ma fille. » Je la plantai là, près du bastingage. Un journal avait été abandonné au bar, et je trouvais sous sa manchette de quatre mots quelques maigres détails sur la mort de Willy. Le vol 417 à destination de Chicago avait quitté l'aéroport international de Charleston à 0h18. 20 minutes plus tard, l'avion avait explosé en plein vol, non loin de la ville de Columbia. Des fragments de fuselage et des corps en morceaux étaient tombés dans le marais de Congaree, où des pêcheurs les avaient retrouvés durant la nuit. Il n'y avait aucun survivant. L'administration aérienne et le FBI avaient ouvert une enquête. Un bourdonnement m'emplit les oreilles et je dus m'asseoir de peur de m'évanouir. Mes mains étaient toutes moites sur le vinyle vert du fauteuil. Des gens passèrent devant moi pour se diriger vers la passerelle. Willy était mort, assassiné. Nina l'avait tué. L'espace de quelques secondes vertigineuses, j'envisageais la possibilité d'une conspiration, un plan complexe élaboré par Nina et par Willy afin de me faire croire à la disparition de la menace représentée par ce dernier. Mais non, c'était ridicule. Si Nina avait fait entrer Willy dans ses plans, une machination aussi absurde aurait été inutile. Willy était mort. Ses restes étaient éparpillés dans un marais obscur et puant. Il n'était que trop facile d'imaginer ses derniers instants. Il était confortablement installé dans son fauteuil de première classe, un verre à la main, murmurant quelque chose à l'un de ses frustes compagnons. Puis l'explosion, les cris, les ténèbres soudaines, un brusque basculement et la chute finale vers l'oubli. Je frissonnais et agrippais l'accoudoir métallique du fauteuil. Comment Nina avait-elle procédé? Sûrement pas grâce à l'un des compagnons de Willy. Nina était assez puissante pour utiliser l'un des propres pions de Willy, étant donné le talent déclinant de celui-ci, mais elle n'avait aucune raison d'agir ainsi. Elle avait pu utiliser n'importe quel passager. Une tâche extrêmement difficile, impliquant qu'elle fasse préparer une bombe à son pion, en refoule tout souvenir dans son esprit, et l'utilise alors même que nous étions en train de boire du café et du cognac. Mais Nina en était capable. Oui, elle en était capable. Et le minutage de l'opération. Ce minutage ne pouvait signifier qu'une chose. Les derniers touristes étaient sortis de la cabine. Je sentis la légère secousse indiquant que nous avions accosté. Monsieur Thorne se tenait près de la porte. Le minutage de Nina signifiait qu'elle tentait de s'occuper en même temps de nous deux. Elle avait tout planifié bien avant la réunion au cours de laquelle j'avais timidement annoncé mon retrait. Comme cela avait dû l'amuser. Pas étonnant qu'elle ait réagi avec autant de générosité. Mais elle avait commis une grave erreur. En s'occupant d'abord de Willy, Nina avait tout misé sur l'hypothèse que je n'apprendrais pas la nouvelle à temps pour préparer mes défenses. Elle savait que je ne recevrais aucun journal et que je ne quittais que rarement ma maison. Mais cela ne ressemblait pas à Nina de laisser quoi que ce soit au hasard. Se pouvait-il qu'elle ait cru que j'avais perdu mon talent et que Willy était le plus redoutable de nous deux? Je secouai la tête tandis que nous émergions dans la lumière grise de l'après-midi. Le vent me cingla à travers le mince tissu de mon manteau. La passerelle était floue et je me rendis compte que mes yeux étaient emplis de larmes. À cause de Willy? Ce n'était qu'un vieil imbécile affaibli et pompeux. À cause de la trahison de Nina? Peut-être était-ce seulement le vent. On ne voyait presque aucun piéton dans les rues du vieux quartier. Des branches nues s'entrechoquaient devant les fenêtres des belles maisons. Monsieur Thorne restait à mes côtés. L'air froid avait réveillé mon arthrite et ma jambe droite m'élançait jusqu'à la hanche. Je m'appuyais un peu plus sur la canne de mon père. Qu'allait-elle faire à présent? Je fis halte. Un fragment de journal poussé par le vent s'enveloppa autour de ma cheville puis s'envola. Comment allait-elle s'attaquer à moi? Pas de loin. Elle se trouvait quelque part en ville. Je le savais. Il est certes possible d'utiliser quelqu'un à distance, mais cela nécessite un rapport mental approfondi, une connaissance quasi intime du sujet. Et si le contact est perdu, il est presque impossible de le rétablir à distance. Aucun de nous ne savait pourquoi. Peu importait désormais. Mais l'idée que Nina était toujours ici, dans les environs, fit battre mon cœur un peu plus vite. Pas de loin. Celui ou celle qu'elle utiliserait, m'agresserait physiquement. Je le verrais venir. Je connaissais assez bien Nina pour en être sûre. La mort de Willy était le festin le moins personnel qu'on pût imaginer. Mais il n'y avait eu là qu'une opération technique. Nina avait de toute évidence décidé de régler ses comptes avec moi. Et Willy avait représenté un obstacle à ses yeux. Un danger mineur mais mesurable qu'elle devait éliminer avant de poursuivre l'offensive. Nina interprétait sûrement la mort qu'elle avait choisie pour Willy comme un acte de compassion, voire un témoignage d'affection. Rien de tel avec moi. Nina voudrait certainement que je sache, même l'espace d'un instant, qui dirigeait les opérations. Dans un sens, sa vanité me servirait d'avertissement, du moins l'espérais-je. Je fus tentée de partir immédiatement. Il me suffisait d'envoyer M. Thorne chercher Lodi, et nous serions sortis de la zone d'influence de Nina en moins d'une heure, et partis pour une nouvelle vie quelques heures plus tard. La maison recelait des objets de valeur, bien sûr, mais les fonds que j'avais déposés ailleurs remplaceraient la plupart d'entre eux. Ce serait presque un réconfort que d'abandonner tous ces objets en même temps que l'identité qui les avait accumulés. Non, je ne pouvais pas partir. Pas encore. De l'autre côté de la rue, la maison paraissait sombre et menaçante. Était-ce moi qui avais baissé le store du premier étage? Il y eut un mouvement dans la cour et je vis la petite fille de Mrs. Hodges courir d'une entrée à l'autre avec son amie. Je restais au bord du trottoir, hésitante, tapotant la noire écorce d'un arbre du bout de la canne de mon père. Il était ridicule d'hésiter ainsi, je le savais.
mais cela faisait longtemps que je n'avais pas eu à prendre une décision dans un tel état de tension.
« Monsieur Thorne, allez inspecter la maison, s'il vous plaît. Fouillez toutes les pièces. Revenez vite. »
Un vent froid se leva, tandis que le manteau noir de Monsieur Thorne se fondait dans la pénombre de la cour. Je me sentais terriblement vulnérable, seul dans cette rue. Je me surpris à regarder à droite et à gauche, cherchant les cheveux bruns de Miss Kramer, mais la seule personne présente était une jeune femme poussant un landau à l'autre bout de la rue. On releva brusquement le store du premier étage, et le visage blême de Monsieur Thorne s'y encadra une minute. Puis il se détourna, et je gardai les yeux fixés sur le rectangle noir de la fenêtre. Un cri en provenance de la cour me fit sursauter, mais ce n'était que la fillette, comment s'appelait-elle ? Kathleen, qui appelait son amie. Les deux enfants s'assirent au bord de la fontaine et ouvrirent une boîte de crackers. Je les regardai avec méfiance, puis me détendis. Je réussis même à sourire de ma paranoïa. L'espace d'une seconde, j'envisageais d'utiliser directement Monsieur Thorne, mais l'idée de me retrouver impuissante en pleine rue m'en dissuada. Quand on entre en contact total, les sens sont toujours fonctionnels, mais reste au mieux quelque chose d'assez lointain. Dépêchez-vous. Je transmis cette pensée presque involontairement. Deux hommes barbus s'avançaient dans ma direction. Je changeais de trottoir pour me placer devant le portail de ma maison. Les deux hommes riaient et gesticulaient. L'un d'eux me regarda. « Dépêchez-vous. » Monsieur Thorne sortit de la maison, referma la porte derrière lui et traversa la cour pour me rejoindre. Une des fillettes lui dit quelque chose et lui tendit sa boîte de crackers, mais il ne lui prêta pas la moindre attention. De l'autre côté de la rue, les deux hommes passèrent leur chemin. Monsieur Thorne me tendit la clé de la porte d'entrée. Je la rangeai dans la poche de mon manteau et lui lançai un regard pénétrant. Il hocha la tête. Son sourire tranquille se moquait inconsciemment de ma consternation. « Vous êtes sûr ?» demandai-je. Nouveau hochement de tête. « Vous avez regardé dans toutes les pièces ?»« Oui. » « Et le système d'alarme ?»« Oui. » « Vous avez regardé dans la cave ?»« Oui. » « Aucun signe d'effraction ?» Monsieur Thorne secoua la tête. Ma main se posa sur le métal du portail, mais j'hésitais. L'anxiété m'obstruait la gorge comme de la bile. Je n'étais qu'une vieille femme stupide, fatiguée, éperclue de douleur. Mais je ne pouvais me résoudre à ouvrir ce portail. « Venez. » Je traversai la rue et m'éloignai de la maison d'un pas vif. « Nous irons dîner chez Henry et nous reviendrons plus tard. » Mais je ne me dirigeais pas vers le vieux restaurant. Je fuyais la maison, en proie à ce que je savais être une panique aveugle. Ce fut seulement lorsque nous arrivâmes sur le front de mer, le long du mur de la batterie, que je commençai à me calmer. Personne en vue. Quelques voitures roulaient sur la chaussée, mais nous approcher à pied impliquait un large espace vide à traverser. Les nuages gris étaient fort bas et se mêlaient aux vagues couronnées d'écume de la baie. L'air pur et la lumière vespérale firent revivre mon corps et clarifièrent mes pensées. Quels qu'aient été les plans de Nina, ils avaient sûrement été déjoués par mon absence. J'étais presque sûre que Nina ne resterait pas dans les parages si elle pensait courir le moindre danger. Non. Elle reprendrait sûrement l'avion pour New York, pendant que je restais à frissonner près de la batterie. Demain matin, je recevrai un télégramme. Je pouvais presque en imaginer la teneur exacte. Mélanie, pauvre Willy, c'est vraiment horrible, horriblement triste. Veux-tu venir avec moi à l'enterrement ? Amitié, Nina. Je commençais à me rendre compte que mon hésitation était en grande partie motivée par le désir de retrouver la chaleur et le confort de mon foyer. J'avais eu peur de renoncer à ce vieux cocon, tout simplement. À présent, j'en étais capable. J'irais me mettre à l'abri pendant que Monsieur Thorne retournerait à la maison pour y récupérer le seul objet que je ne souhaitais pas abandonner. Puis, il irait chercher la voiture au garage, et lorsque le télégramme de Nina arriverait, je serais déjà loin.
C'était Nina qui aurait peur de son ombre pendant les mois et les années à venir. Je souris et entrepris de formuler les ordres nécessaires. Mélanie ? Je tournai vivement la tête. Monsieur Thorne n'avait pas prononcé un seul mot pendant 28 ans. Et voilà qu'il parlait. Mélanie. Son visage était déformé par un rictus qui révélait jusqu'à ses molaires. Il avait son couteau dans la main droite. La lame jaillit. Je regardais ses yeux gris, vides, et je sus. Mélanie. La longue lame décrivit un arc dévastateur. Je ne pus rien faire pour l'arrêter. Elle transperça la manche de mon manteau et continua sa course vers mon flanc. Mais en me retournant, j'avais placé mon sac à main sur sa trajectoire. Le couteau en trancha le cuir, en déchira le contenu, puis transperça mon manteau et me blessa au-dessus de la dernière côte. Mon sac à main m'avait sauvé la vie. Je levai la lourde canne de mon père et frappai M. Thorne en plein dans l'œil gauche. Il vacilla, mais n'émit aucun bruit. Il fendit à nouveau l'air de son couteau. Mais j'avais reculé de 2 pas, et il n'y voyait plus guère. Je saisis la canne des 2 mains et maladroitement frappai encore une fois. Contre toute attente, je l'atteignis de nouveau à l'orbite. Je reculai encore de 3 pas. La joue gauche de M. Thorne ruisselait de sang, et son œil meurtri pendait sur sa pommette. Sans se départir de son rictus, il redressa la tête, leva lentement sa main gauche, s'arracha l'œil avec un claquement mou d'une aire optique, puis le jeta dans les eaux de la baie. Il se dirigea vers moi. Je tournai les talons et me mis à courir. J'essayais de courir. La douleur qui taraudait ma jambe droite me força à ralentir l'allure au bout de 20 pas. Encore 15 pas, et mes poumons étaient à court d'air. Mon cœur menaçait d'exploser. Je sentais quelque chose de chaud couler sur mon flanc gauche et un picotement, pareil au contact d'un glaçon sur ma peau, là où le couteau m'avait atteinte. Un regard en arrière me suffit pour constater que M. Thorne avançait plus vite que moi. En temps normal, il m'aurait rattrapé en 4 enjambées. Il est difficile de faire courir un sujet pendant qu'on l'utilise, surtout lorsque son corps réagit à un traumatisme. Nouveau coup d'œil en arrière, et je faillis glisser sur le pavé mouillé. Monsieur Thorne avait un large sourire. Le sang coulait de son orbite vide et tachait ses dents. Il n'y avait personne d'autre en vue. Je dévale les marches, accroché à la rampe pour ne pas tomber. Enfile l'allée sinueuse, puis remonte le sentier goudronné qui conduit à la rue. Les réverbères s'allumaient sur mon passage dans un concert de clignotements. Derrière moi, Monsieur Thorne négocia l'escalier. Tout en pressant le pas, je me félicitais d'avoir mis des souliers à talons plats pour prendre le bateau. Qu'aurait pensé un observateur devant ces 2 vieillards qui se poursuivaient au ralenti? Mais il n'y avait aucun observateur. Je m'engageais dans une petite rue latérale, boutique fermée, entrepôt vide. Il me suffisait de prendre à gauche pour regagner Broad Street. Mais sur ma droite, à un demi-pâté de maison de là, une silhouette solitaire vient d'émerger d'un pas de porte. Je me dirige vers elle, incapable de courir au bord de l'évanouissement. Les crampes de ma jambe droite étaient plus douloureuses que jamais et menaçaient de me terrasser. Monsieur Thorne était à 20 pas derrière moi et gagnait du terrain. L'homme dont je m'approchais était un noir élancé, vêtu d'une veste de nylon brun. Il porte une boîte contenant, semble-t-il, des photographies encadrées couleur sépia. Il jette un regard dans ma direction, puis découvre l'apparition qui me suit à 10 pas de distance. Hé ! L'homme n'a que le temps de proférer cette unique syllabe. Je tends mon esprit vers lui et pousse. Il tressaute comme une marionnette manipulée par un débutant. Ses mâchoires s'affaissent, ses yeux deviennent vitreux, et il arrive à mon niveau au moment même où M. Thorne tente de saisir mon manteau. La boîte s'envole dans les airs et le verre se brise sur le trottoir. De longs doigts bruns se tendent vers une gorge blanche. M. Thorne tente d'écarter le noir de son chemin, mais il s'accroche à lui, et les 2 hommes se mettent à tourner en rond comme des danseurs maladroits. Arrivé à l'entrée d'une ruelle, j'appuie ma joue contre la brique froide pour reprendre mes esprits. La concentration nécessaire à l'utilisation de cet inconnu ne m'autorise pas une seconde de répit. Au spectacle des 2 hommes en train de tituber comme des ivrognes, Je dois refouler une absurde envie de rire. Monsieur Thorn plonge son couteau dans l'estomac de son adversaire, l'en retire et replonge. Les ongles du noir attaquent maintenant l'œil valide de Monsieur Thorn. Ses dents bien plantées cherchent à se refermer sur la veine jugulaire de Monsieur Thorn. Je sens une troisième fois l'intrusion glacée et lointaine de la lame, mais le cœur bat encore et l'homme reste utilisable. Il bondit, en serrant la taille de Monsieur Thorn avec ses jambes, pendant que ses mâchoires se referment autour de sa gorge musculeuse. Des ongles labourent une peau blanche qui se couvre de traînées sanglantes. Les deux hommes tombent pêle-mêle. Tue-le. Des doigts cherchent un œil, mais Monsieur Thorn tend la main gauche et brise un frêle poignet. Des doigts flasques continuent à s'agiter. Dans un effort surhumain, Monsieur Thorn plaque son avant-bras sur le torse de son adversaire et le lève au-dessus de lui comme un père jouant avec son enfant. Des dents déchirent la chair, mais sans infliger de blessures sérieuses. Monsieur Thorn lève son couteau, frappe de droite à gauche, de gauche à droite. Son deuxième coup tranche la gorge du noir, et une fontaine de sang les inonde tous les deux. Les jambes du noir tressautent par deux fois. Monsieur Thorn l'écarte de son chemin, et je fais demi-tour pour m'engager dans la ruelle. J'émerge de nouveau dans la lumière déclinante et je m'aperçois que je suis dans une impasse. Les murs d'entrepôt, la muraille métallique de la marina et de la batterie et les eaux de la baie. Il y a bien une rue sur ma gauche, mais elle est sombre, déserte et bien trop longue pour que j'essaie de l'emprunter. Je regarde derrière moi juste à temps pour voir la silhouette noire pénétrer dans la ruelle à ma suite. Je tente d'établir le contact, mais il n'y a rien. Rien. Monsieur Thorn pourrait tout aussi bien être un trou creusé dans l'air. Je m'inquiéterai plus tard de la façon dont Nina a accompli ce prodige. L'entrée de service de la marina est fermée. La porte principale se trouve à une centaine de mètres de là, sûrement fermée elle aussi. Monsieur Thorn sort de la ruelle et tourne la tête de droite à gauche, me cherchant du regard. Son visage, strié de sang, semble presque noir tant la lumière est faible. Et il se dirige vers moi en titubant. Je lève la canne de mon père, fracasse une vitre et plonge une main entre les éclats de verre. S'il y a un verrou, en haut ou en bas, je suis perdu. La porte n'est fermée que par une serrure ordinaire et un loquet. Mes doigts glissent sur le métal glacé, mais le loquet coulisse au moment où Monsieur Thorn prend pied sur l'allée. Me voici à l'intérieur. Je referme le verrou. Il fait très sombre. Le froid monte du sol de béton et on entend les murmures d'une multitude de petits bateaux qui dansent gentiment à leurs amarres. À une cinquantaine de mètres, les fenêtres du bureau sont éclairées. J'avais espéré la présence d'un système d'alarme, mais le bâtiment est trop vieux et la direction trop avare pour en avoir installé un. Je me dirige vers la lumière alors que Monsieur Thorn achève de briser la vitre derrière moi. Son bras se retire de l'ouverture. D'un puissant coup de pied, il fracasse la plus haute charnière et fait éclater le bois autour du verrou. Je me retourne vers le bureau, mais seul le bruit d'une radio parvient jusqu'à moi depuis la porte invraisemblablement lointaine. Nouveau coup de pied. J'oblique sur la droite et saute sur le pont d'un yacht. 5 pas de plus. Et je me retrouve dans le petit espace couvert qui sert de cabine avant. Je referme le mince panneau derrière moi et observe la suite des événements à travers son plexiglas encrassé. Le troisième coup de pied décoché par Monsieur Thorn fait voler la porte en éclats. Sa silhouette sombre apparaît sur le seuil. La lueur d'un réverbère lointain joue sur la lame qu'il tient à la main. Je vous en prie, entendez ce bruit. Mais on ne perçoit aucun mouvement dans le bureau. Aucun bruit en dehors des voix métalliques de la radio. Monsieur Thorn avance de 4 pas, s'immobilise, puis monte sur le premier bateau de la rangée. Ce n'est qu'un hors-bord et il regagne le quai de béton au bout de 6 secondes. Le deuxième bateau est équipé d'une petite cabine. Un craquement lorsque M. Thorn en défonce la porte minuscule, puis il regagne le quai. Mon bateau est le 8e de la rangée. Je me demande pourquoi il n'entend pas le martèlement affolé de mon cœur. Je change de position et jette un coup d'œil par le hublot de tribord. Le plexiglas sale découpe la lumière en bandes irrégulières. Bref aperçu de cheveux blancs derrière la fenêtre. on règle la radio sur une autre station. Les échos d'une musique bruyante résonnent autour de moi. Je retourne à l'autre hublot. Monsieur Thorne est en train de descendre du quatrième bateau. Je ferme les yeux, me force à reprendre mon souffle et essaie de me rappeler les innombrables soirées où je regardais une vieille silhouette cagneuse s'engager dans la rue. Monsieur Thorne achève d'inspecter le cinquième bateau, un yacht de belle taille, pourvu de plusieurs cachettes potentielles et regagne le quai. Oubliez votre café. Oubliez vos mots croisés. Allez voir. Le sixième bateau est relativement petit. Monsieur Thorne se contente d'y jeter un coup d'œil en passant. Le septième est un voilier dématé, recouvert d'une bâche. Le couteau de Monsieur Thorne plonge dedans. Ses mains sanguignolantes la soulèvent comme un linceul. Il regagne le quai d'un bond. Oubliez votre café, allez voir. Tout de suite. Monsieur Thorne met le pied sur la proue de mon bateau. Je le sens tanguer sous son poids. Aucun endroit où me cacher, excepté un petit espace sous la banquette où je ne réussirai jamais à me glisser. Je dénoue les bandes de tissu qui maintiennent les coussins en place. L'écho de mon souffle irrégulier semble résonner dans l'espace minuscule. Je me blottis derrière un coussin alors que les jambes de Monsieur Thorne apparaissent derrière le hublot de tribord. Tout de suite. Soudain, son visage emplit le panneau de plexiglas à moins de 30 centimètres de moi. Son rictus, invraisemblablement large, se fait plus large encore. Tout de suite. Il pénètre dans le cockpit. Tout de suite. Tout de suite. Monsieur Thorne s'accroupit sur le seuil. J'essaie de bloquer la petite porte avec mes jambes, mais la droite refuse de m'obéir. Le poing de Monsieur Thorne fracasse les lattes de bois minces et agrippe ma cheville. « Hé, vous !» C'est la voix chevrotante de Monsieur Hodges. La lumière de sa lampe torche danse dans notre direction. Monsieur Thorne se presse contre la porte. Ma jambe gauche ploie douloureusement. La main gauche de Monsieur Thorne tient fermement ma cheville pendant que le couteau se faufile par l'entrebâillement de la porte. « Hé !» crie Monsieur Hodges, et voilà que mon esprit pousse, très fort. Le vieil homme se fige, il lèche choir sa lampe et libère la tâche de sécurité de son revolver. Monsieur Thorne laboure l'air de son couteau. Il manque m'arracher le coussin des mains, tandis qu'un nuage de mousse envahit la cabine. Le couteau revient à la charge, et sa lame me pique au bout de l'auriculaire. « Allez-y, tout de suite. Allez-y. » Monsieur Hodges saisit le revolver des deux mains et tire. La balle va se perdre dans l'obscurité, et l'écho de la détonation se répercute sur le béton et sur l'eau. « Plus près, imbécile. Avance. » Monsieur Thorne force encore sur la porte, et son corps se faufile dans la cabine. Il lâche ma cheville pour libérer son bras gauche, mais sa main ressurgit presque aussitôt, cherchant à me saisir. J'allume la lumière. Un puits de ténèbres me fixe dans son orbite vide. Des bandes de lumière jaune strient son visage en bouillie. Je glisse vers la gauche, mais la main de Monsieur Thorne, qui agrippe mon manteau, me force à quitter la banquette. Il est à genoux et se prépare à me poignarder. Maintenant. La deuxième balle de Monsieur Hodges touche Monsieur Thorne à la hanche droite. Il laisse échapper un grognement, tandis que le choc le rejette en arrière en position assise. Mon manteau se déchire. Des boutons vont valser sur le pont. Le couteau entaille la banquette près de mon oreille avant de se retirer. Monsieur Hodges monte à bord d'un pas mal assuré, manque de tomber et s'avance lentement à tribord. Je pousse la porte sur le bras de Monsieur Thorne, mais il tient toujours fermement mon manteau et me tire vers lui. Je tombe à genoux. Le couteau s'abat, transperce la mousse et déchire à nouveau mon manteau. Ce qui reste du coussin s'envole de mes mains. Je force Monsieur Hodges à faire halte à 1 mètre de nous et à caler son arme sur le toit de la cabine. Monsieur Thorne retire son couteau et le lève comme un matador prêt à frapper. Je sens des cris de triomphe muets se déverser de sa bouche en sang comme un nuage de vapeur toxique. La folie de Nina brûle dans l'œil unique qui me fixe. Monsieur Hodges fait feu. La balle brise la colonne vertébrale de Monsieur Thorne et va s'enchasser dans le dallo de bâbord. Monsieur Thorne s'arc-boute, agite violemment les bras et s'abat sur le pont comme un poisson qu'on vient d'arracher à l'eau. Le couteau atterrit sur le sol de la cabine, pendant que des doigts blancs et raides continuent de frémir mollement sur le plancher. Je force M. Hodges à s'avancer, à coller le canon de son arme sur la tempe de M. Thorne, juste au-dessus de son œil valide, et à tirer. Cela fit un bruit étouffé, caverneux. Il y avait une trousse de premiers secours dans la salle de bain attenant au bureau. J'obligeais le vieil homme à rester près de la porte pendant que je bandais mon auriculaire et prenais 3 aspirines. Mon manteau était en lambeaux et ma robe maculée de sang. Je n'avais jamais aimé cette robe. Je me sentais toujours mal fagotée dedans. Mais ce manteau était l'un de mes préférés. Mes cheveux étaient tout ébouriffés, constellés de fragments de matière grise. Je me passai de l'eau sur le visage et fis de mon mieux pour me recoiffer. Chose incroyable, j'avais toujours mon sac à main avec moi, bien que son contenu ait en partie disparu. Je fourrai mes clés, mon portefeuille, mes lunettes et mes Kleenex dans la poche de mon manteau et abandonnai mon sac derrière les cabinets. J'avais perdu la canne de mon père, mais impossible de me rappeler où. J'ôtai tout doucement le lourd revolver des mains de M. Hodges. Le vieil homme garda le bras tendu, les doigts agrippant le vide. Après quelques secondes d'hésitation, je réussis à ouvrir le barillet. Il y restait 2 cartouches de cuivre. Ce vieil imbécile se baladait avec une arme chargée de 6 balles. Il faut toujours laisser une chambre vide sous le percuteur. C'était ce que Charles m'avait appris lors de cet été joyeux et si lointain. À une époque où de telles armes n'étaient que des excuses pour aller nous entraîner à tirer sur l'île. Nina et moi ne cessions de rire ou de pousser des cris pendant que nos professeurs si sérieux nous soutenaient de leurs bras robustes. « Il faut toujours compter ses cartouches », conseillait Charles, pendant que je défaillais dans ses bras, étourdi par l'odeur de savon et de tabac si douce, si masculine, qui émanait de lui en cette journée ensoleillée. M. Hodges commença à s'agiter pendant que je me laissais ainsi distraire. Sa bouche s'entr'ouvrit et son dentier se décrocha. Je regardais sa vieille ceinture en cuir, mais aucune balle n'y était fixée et j'ignorais où il rangeait ses munitions. Je fouillais son esprit, mais il n'y restait plus grand-chose excepté une boucle d'images se répétant à l'infini. Le canon qui se pose sur la tempe de M. Thorne, la détonation, le... « Venez, » dis-je. J'ajustai les lunettes de M. Hodges sur son visage hagard, remis le revolver dans son étui et laissai le vieil homme me guider pour sortir du bâtiment. Il faisait très noir dehors. Nous avancions d'un réverbère à l'autre. Nous avions dépassé 6 pâtés de maison lorsque les frissons qui secouaient le vieil homme me rappelèrent que j'avais omis de lui faire enfiler son manteau. Je resserrai mon étau mental et il cessa de trembler. La maison n'avait pas changé depuis, mon Dieu, seulement 3 quarts d'heure. Aucune lumière n'était allumée. Je nous fis entrer dans la cour et fouillai mes poches à la recherche de la clé. Mon manteau était mal fermé et l'air froid de la nuit vint me pincer. J'entendis des rires enfantins en provenance d'une fenêtre éclairée et je me pressai de peur que Kathleen ne voie son grand-père entrer chez moi. Monsieur Hodges me précéda, revolver au poing. Je lui fis allumer la lumière avant d'entrer à mon tour. L'entrée était vide, intacte. La lumière du lustre de la salle à manger se reflétait sur les surfaces polies des meubles. Je m'assis quelques minutes sur le faux siège Williamsburg, en attendant que s'apaisent les battements de mon cœur. Je ne voulais pas que M. Hodges appuie sur la détente du revolver, qu'il braquait toujours devant lui. Son bras se mit à trembler sous l'effort. Finalement, je me levai et nous prîmes le chemin de la serre. Miss Kramer jaillit de la cuisine, brandissant un lourd tisonnier en fer qu'elle abattit aussitôt. Une balle alla se planter dans le parquet ciré, alors que le bras du vieil homme se brisait sous le choc. Le revolver tomba de ses doigts flasques, et Miss Kramer leva de nouveau son arme pour frapper. Je fis demi-tour et courus le long du couloir. J'entendis derrière moi un bruit de melon qui éclate, lorsque le tisonnier entra en contact avec le crâne de M. Hodges. Plutôt que de regagner la cour, je commençai à gravir l'escalier. Erreur. Miss Kramer monta les marches 4 à 4 et arriva devant la porte de ma chambre quelques secondes après moi. J'eus le temps d'apercevoir ses yeux fous et féroces, ainsi que le tisonnier qui se levait à nouveau, avant de fermer la porte et de tourner la clé. Le loquet se mit en place, alors que la femme brune se jetait contre les lourds panneaux de chêne. La porte ne bougea pas d'un pouce. Puis j'entendis un choc métallique au niveau du chambranle, puis un autre, et un autre encore. Maudissant ma stupidité, je me tournai vers cette pièce si familière. Mais je n'y vis rien qui puisse m'aider, même pas un téléphone. Il n'y avait même pas de placard pour m'offrir une cachette, rien qu'une antique garde-robe. Je me dirigeai promptement vers la fenêtre à guillotine et en soulevai le châssis. Mes cris finiraient bien par attirer l'attention, mais cette monstruosité serait déjà entrée dans ma chambre. Elle était à présent en train de forcer sur les côtés de la porte. Je regardai au dehors, vis des ombres chinoises aux fenêtres et fis ce que j'avais à faire. 2 minutes plus tard, j'entendis à peine le bois céder autour de la serrure. J'entendis à peine le tisonnier en arracher la gâche récalcitrante. La porte s'ouvrit à la volée. Miss Kramer était trempée de sueur. Sa bouche était grande ouverte et de la salive lui coulait sur le menton. Ses yeux étaient inhumains. Ni elle ni moi n'entendîmes le léger bruit de pas sur les marches. « Continue d'avancer. Lève-moi ça. Ramène ceci en arrière jusqu'au bout. Serre-toi de tes deux mains. Vise. » Quelque chose alerta Miss Kramer. Alerta Nina, devrais-je dire. Car Miss Kramer n'existait plus. La femme brune se retourna et découvrit la petite Kathleen, debout en haut des marches, tenant dans ses mains le revolver de son grand-père. Sa camarade l'appelait depuis la cour. Cette fois-ci, Nina savait qu'elle devait faire face à la menace. Miss Kramer brandit son tisonnier et retourna dans le couloir au moment précis où éclatait le coup de feu. Kathleen dévala l'escalier sous l'effet du recul, tandis qu'une fleur rouge s'épanouissait au-dessus du sein gauche de Miss Kramer. Elle chancela, mais réussit à agripper la rampe de la main gauche et descendit les marches en titubant pour foncer sur la fillette. Je relâchai celle-ci au moment où le tisonnier s'abattait, se relevait, s'abattait de nouveau. J'allais jusqu'à la balustrade. Il fallait que je voie. Miss Kramer s'écarta de son sinistre ouvrage et leva les yeux vers moi. Seule, la sclérotique en était visible. Son visage et son chemisier étaient maculés de sang. Mais elle pouvait encore bouger, encore fonctionner. Elle tenait le revolver dans sa main gauche. Sa bouche s'ouvrit encore plus grand, et il en jaillit un bruit de vapeur fusant d'un vieux radiateur. « Mélanie, Mélanie !» Je fermai les yeux, tandis que la chose se dirigeait vers moi. L'amie de Kathleen déboula à toute allure de la porte d'entrée. Elle monta les marches en 6 enjambées et passa ses bras pâles, menus, autour du cou de Miss Kramer. Toutes deux tombèrent, rebondissant sur le corps de Kathleen, pour aller atterrir pêle-mêle sur le parquet ciré. La fillette semblait à peine contusionnée. Je descendis et l'écartai de sa victime. Une tache bleue était en train de naître sur sa pommette, et il y avait quelques coupures sur ses bras et son front. Ses yeux bleus clignaient sans comprendre. Miss Kramer avait la nuque brisée. Je me dirigeai vers elle, ramassant le revolver en chemin et donnait un coup de pied dans le tisonnier. Son cou formait un angle impossible, mais elle était encore en vie. Son corps était paralysé, son urine souillait déjà le parquet, mais ses yeux sillaient encore et ses dents claquaient de façon obscène. Je devais me dépêcher. J'entendais des voix adultes appeler chez les Hodges. La porte donnant sur la cour était grande ouverte. Je me retournai vers la fillette. « Lève-toi. » Elle cligna des yeux et s'exécuta avec peine. Je refermai la porte et pris un imperméable mastic dans le placard. Il ne me fallut que quelques minutes pour transférer dans ses poches le contenu de celle de mon manteau et jeter celui-ci. On entendait à présent des voix dans la cour. Je m'agenouillai à côté de Miss Kramer et saisis son visage, exerçant une forte pression sur ses mâchoires pour les maintenir fermées. Ses yeux étaient révulsés, mais je lui secouai la tête jusqu'à ce que leur iris soit à nouveau visible. Je me penchai sur elle, nos joues se touchèrent, mon murmure fut plus bruyant qu'un cri.
J'arrive, Nina.
Je lâchai sa tête sur le parquet et m'empressai de gagner la serre, mon ouvroir. Comme je n'avais pas le temps d'aller chercher la clé en haut, je pris un fauteuil Windsor et fracassai la vitrine. La poche de mon imperméable était tout juste assez grande. La petite fille était toujours debout dans l'entrée. Je lui tendis le revolver de Mr. Hodges. Son bras gauche pendait selon un angle bizarre, et je me demandais si elle ne s'était pas cassé quelque chose. Il y eut un coup à la porte, et on fit tourner la poignée. « Par ici, » murmurai-je. Et je conduisis la fillette dans la salle à manger. Nous enjambâmes Miss Cramer, traversâmes la cuisine plongée dans l'ombre, alors que les coups se faisaient plus pressants, puis nous sortîmes dans la ruelle, dans la nuit. Il y avait 3 hôtels dans cette partie du vieux quartier. Le premier était un motel moderne et coûteux, situé à 10 pâtés de maison de là, confortable, mais trop fréquenté. Je l'éliminai immédiatement. Le deuxième était une petite pension de famille, située tout près de chez moi. Exactement le type d'établissement que je choisirais si je devais visiter une autre ville. Je l'éliminai également. Le troisième était situé 2 ou 3 pâtés de maison plus loin, une vieille demeure de Broad Street, reconvertie en hôtel, dont les chambres meublées à l'ancienne coûtaient les yeux de la tête. Ce fut là que je me précipitai. La fillette trottinait à mes côtés. Elle tenait toujours le revolver à la main, mais je l'avais forcée à ôter son pull-over pour dissimuler l'arme. Ma jambe me faisait mal, et je dus à plusieurs reprises m'appuyer sur la petite fille. Le directeur de Mansard House me reconnut. Il haussa les sourcils de quelques millimètres en me voyant dans un tel état. La fillette resta dans le hall, à moitié cachée dans l'ombre. « Je cherche une de mes amies, » dis-je d'une voix enjouée. « Mrs. Drayton. » Le directeur fit mine de me répondre, s'interrompit, fronça les sourcils sans en avoir conscience, puis me dit « Je suis navré, personne de ce nom n'est descendu ici. » Peut-être s'est-elle inscrite sous son nom de jeune fille, Nina Hawkins. C'est une femme d'un certain âge, mais encore très séduisante. Quelques années de moins que moi, de longs cheveux gris. Peut-être est-ce son amie qui s'est inscrite. Une jeune femme brune assez jolie du nom de Barrett Cramer. Non, je suis navrée, dit le directeur d'une voix étrangement neutre. Personne de ce nom ne s'est inscrit ici. Voulez-vous laisser un message au cas où votre amie arriverait demain?
Non, dis-je.
Pas de message. Je fis venir la fillette à la réception et nous empruntâmes un couloir conduisant aux toilettes et à l'escalier de service. « Excusez-moi, je vous prie, » dis-je à un portier qui passait par là. « Peut-être pouvez-vous m'aider ?»«
Oui, madame. »
Il s'arrêta agacé et repoussa ses cheveux longs en arrière. Cela allait être difficile. Il me faudrait agir vite si je ne voulais pas perdre la fillette. « Je cherche une de mes amies, » dis-je. « Une dame d'un certain âge, mais encore très séduisante. Des yeux bleus, de longs cheveux gris. Elle voyage en compagnie d'une jeune femme aux cheveux bruns et bouclés. « Non, madame, aucune personne répondant à cette description n'est descendue ici. »
Je tendis la main et lui saisis le bras. Je lâchai la fillette et me concentrai sur le jeune homme.
« En êtes-vous sûre ?»
« Mrs. Harrison, »
dit-il. Ses yeux regardaient dans le vague.
« Chambre 207. Elnor. »
Je souris. « Mrs. Harrison. » Grand Dieu, que Nina était bête. Soudain, la petite fille se mit à gémir et s'effondra contre le mur. Je pris ma décision en hâte. J'aime à croire qu'elle me fut dictée par la compassion. Mais je me souviens parfois que son bras gauche était inutile.
« Quel est ton nom ? »
demandai-je à la fillette en caressant doucement ses boucles. Ses yeux roulaient de droite à gauche.
« Ton nom ? » insistai-je.
« Alicia. »
Sa voix n'était qu'un murmure.
« Très bien, Alicia. Je veux que tu rentres chez toi maintenant. Dépêche-toi, mais ne cours pas. »
« J'ai mal au bras, » dit-elle.
Ses lèvres se mirent à frémir, je touchai de nouveau son front et poussai. « Tu vas rentrer chez toi, » dis-je. « Tu n'as pas mal au bras. Tu ne te souviendras de rien.
Ceci est un rêve que tu vas oublier. Rentre chez toi. Dépêche-toi. Mais ne cours pas. »
Je lui repris le revolver, mais le laissai enveloppé dans le pull-over.
« Au revoir, Alicia. »
Elle cligna des yeux, puis traversa la réception en direction de la porte. Je regardai à droite et à gauche, puis tendis l'arme au portier.
« Cachez ça sous votre gilet, » dis-je.
« Qui est là ?»
La voix de Nina était enjouée.
« Albert, madame, le portier. Votre voiture est devant la porte et je suis prêt à descendre vos bagages. »
On entendit la clé tourner dans la serrure et la porte s'entr'ouvrit, bloquée par une chaîne de sécurité.
Albert cligna des yeux, ébloui, eut un sourire timide et se passa une main dans les cheveux. Je me pressai contre le mur.
« Très bien !»
Elle défit la chaîne et recula. Elle s'était déjà retournée pour boucler sa valise lorsque j'entrai dans la chambre.
« Bonjour, Nina, » dis-je tout doucement.
Son dos se raidit, mais même ce mouvement était empreint de grâce.
Je vis le creux qu'avait laissé son corps sur le dessus de lit.
Elle se retourna lentement.
Elle portait une robe rose que je ne lui connaissais pas.
« Bonjour, Mélanie. »
Elle sourit.
Ses yeux étaient du bleu le plus doux, le plus pur que j'ai jamais vu.
Je forçai le portier à sortir le revolver de M. Hodges et à le braquer sur elle. Son bras ne tremblait pas.
Il releva le percuteur et le maintint en position avec son pouce.
Nina croisa les bras, ses yeux rivés aux miens.
« Pourquoi ?» demandai-je. Nina eut un haussement d'épaule à peine perceptible.
L'espace d'une seconde, je crus qu'elle allait éclater de rire. Je n'aurais pas pu supporter d'entendre son rire, ce rire rauque et enfantin qui m'avait tant de fois touché.
Au lieu de cela, elle ferma les yeux. Elle souriait toujours.
« Pourquoi, Mrs. Harrison ?» demandai-je.
« Eh bien, ma chérie, je pensais lui devoir quelque chose.
Ce pauvre Roger.
T'ai-je jamais raconté comment il est mort ?
Non, bien sûr que non.
Et tu ne me l'as jamais demandé, chère Mélanie. »
Elle rouvrit les yeux.
Je jetai un regard vers le portier, mais il n'avait pas bougé. Il me suffisait de lui faire exercer une infime pression sur la détente.
« Il s'est noyé, ma chérie, » dit Nina.
« Ce pauvre Roger s'est jeté du pont de ce navire à vapeur.
Comment s'appelait-il déjà ?
Celui qui le ramenait en Angleterre.
Comme c'est étrange.
Et il venait juste de m'écrire une lettre dans laquelle il me demandait en mariage.
N'est-ce pas une histoire horriblement triste, Mélanie ?
Pourquoi a-t-il fait une chose pareille, à ton avis ?
Je pense que nous ne le saurons jamais, n'est-ce pas ?
Sans doute que non.
Mentalement, j'ordonnais au portier d'appuyer sur la détente.
Rien.
Je me tournai vivement vers la droite. La tête du jeune homme pivotait dans ma direction. Je ne lui en avais pas donné l'ordre. Son bras raide commençait à se tourner vers moi. Le revolver bougeait tout doucement comme une girouette caressée par la brise.
Non.
Je me concentrai tellement que les tendons de mon cou se raidirent. Le bras du portier tourna moins vite, mais le canon du revolver se retrouva bientôt braqué sur moi. Alors, Nina éclata de rire.
Ce bruit résonna bizarrement dans la petite chambre.
Adieu, chère Mélanie.
Nina se remit à rire, adressant un hochement de tête au portier.
Je contemplai le trou noir du canon lorsque le percuteur retomba.
Sur une chambre vide, puis sur une autre, et sur une autre encore.
« Adieu, Nina !»
dis-je en sortant de la poche de mon imperméable le long revolver de Charles. La détonation fit tressauter mon poignet et emplit la chambre de fumée bleue. Un petit trou, à peine aussi gros qu'une pièce de monnaie, mais tout aussi rond, apparut exactement au centre du front de Nina.
L'espace d'une fraction de seconde, elle resta debout comme si de rien n'était. Puis elle tomba en arrière, rebondit sur le lit et atterrit face contre terre sur le plancher.
Je me tournai vers le portier et remplaçai son arme inutile par l'ancien revolver bien entretenu.
Pour la première fois, je remarquai que ce garçon était presque aussi jeune que Charles au moment où il était mort. Ses cheveux avaient presque la même couleur que ceux de mon soupirant.
Je me penchai vers lui et l'embrassai doucement sur les lèvres. « Albert, murmurai-je, il vous reste 4 cartouches. Et il faut toujours compter ces cartouches, n'est-ce pas? Allez à la réception. Tu es le directeur. Tu es une autre personne, la première qui se présentera. Ensuite, enfoncez le canon dans votre bouche et appuyez sur la détente. Si le revolver ne fonctionne pas, essayez encore. Cachez l'arme sous votre gilet avant d'arriver à la réception. » La plus grande confusion régnait dans le couloir lorsque nous sortîmes. « Appelez une ambulance !» m'écriai-je. « Il y a eu un accident. Que quelqu'un appelle une ambulance !» Plusieurs personnes s'exécutèrent et partirent en courant. Je fis mine de m'évanouir et tombai dans les bras d'un gentleman aux cheveux blancs. Les badauds s'agitaient, jetaient un coup d'œil dans la chambre et poussaient des hauts cris. Soudain, on entendit 3 détonations en provenance de la réception. Affolement général. J'en profitai pour gagner l'escalier de secours, sortir par une porte dérobée et disparaître dans la nuit.